Bienvenue sur la chaîne du podcast Éco-Mouvement,
le média de sensibilisation sur les sujets liés à la transition écologique, sociale et solidaire.
Tous les lundis, on te propose d'aborder un sujet lié à l'environnement.
Avec des invités inspirants, des scientifiques ou encore des entreprises engagées.
On t'embarque pour la saison 3.
Bonne écoute.
Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast de Éco-Mouvement. Je suis Hélène et je suis heureuse d'animer aujourd'hui cet épisode sur le sujet de la désobéissance civile. Donc je suis avec notre invité Tom, faisant partie de la branche lyonnaise de Extinction Rébellion, venu pour vous en parler. Tom, bienvenue à toi et merci d'être présent avec nous sur cet épisode. Pourrais-tu te présenter s'il te plaît?
Ouais, bien sûr. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très très chouette. Moi je fais partie de Extinction Rébellion depuis mars 2021. J'ai rejoint le mouvement dans la branche à Nantes. Et ensuite, j'ai eu une petite période de chômage dans laquelle j'ai bien profité pour voyager en Europe. Comme Extinction Rébellion, c'est un mouvement international. Il y a des branches un peu dans tous les pays. Là, je me suis installé à Lyon depuis un an et demi, et du coup, maintenant, je fais partie de la branche lyonnaise et de la structure nationale qui, elle, est plus en ligne. Donc, on peut faire partie de la structure nationale, peu importe où on habite.
Ah d'accord, super. Donc structure nationale, ça entend quoi?
En fait, l'échelle nationale, c'est des groupes de support. Donc, c'est par exemple un groupe de communication qui va s'occuper des réseaux sociaux d'XR France, donc des réseaux sociaux nationaux, relations avec les journalistes, etc. Et après, chaque groupe local, donc à Lyon, on a notre propre compte Instagram, on a nos propres contacts de journalistes, mais on peut demander le soutien de la structure nationale pour financer des actions, pour avoir des contacts d'avocats, de journalistes, etc. Donc en fait, la structure nationale, elle vient soutenir les groupes locaux, mais elle n'est pas au-dessus ou décisionnaire de quoi que ce soit.
Et du coup, tu es là aussi pour nous parler de la désobéissance civile. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer ce que c'est et quelles sont tes motivations aussi pour avoir rejoint ce mouvement et donc participer toi-même à cette désobéissance civile?
La désobéissance civile. Extinction Rebellion fait de la désobéissance civile non violente. Donc c'est une stratégie qui a été choisie par le mouvement d'utiliser la non-violence comme mode d'action. La désobéissance civile, c'est l'idée de dire qu'en fait, les lois sont là pour faire respecter un cadre commun à la société, mais qu'en fait, quand le gouvernement ou l'État ne met pas en place ce qui est nécessaire pour protéger la population, alors ça devient légitime, voire nécessaire pour la population de se mettre en résistance, de désobéir à certaines lois. Ça ne veut pas dire que on peut aller braquer une banque pour Extinction Rébellion, parce que c'est illégal certes, mais ça ne va pas forcément dans le sens. C'est pas une action qui a un impact sur l'environnement. Par contre, taguer une banque ou la recouvrir d'affiches, etc., là, on rentre dans de la désobéissance civile parce que c'est illégal, mais il y a un but derrière, stratégique, d'afficher que cette banque-là, elle participe au financement de toute infrastructure d'extraction d'énergie fossile. Pourquoi j'ai choisi XR? Moi, j'ai pas vraiment choisi XR. J'avais des personnes dans mon entourage qui m'ont dit « Ah, tu vas voir, XR, essaye, c'est cool ». C'est des gens sympas, c'est intéressant comme structure de mouvement parce que Extinction Rébellion, c'est un mouvement qui est décentralisé et horizontal. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de secrétaire XR, il n'y a pas de directeur XR. Donc, en fait, on est très libre de faire ce qu'on a envie de faire au sein du mouvement. Il y a en gros une charte, donc des principes et des revendications. Et à partir du moment où on s'inscrit dans ces principes et ces revendications, on fait partie du mouvement et on peut se revendiquer du mouvement. Donc c'est un engagement qui est très modelable et qui varie beaucoup en fonction du temps qu'on a. Et moi, ça me correspondait bien, cette liberté un petit peu.
Pour toi, est-ce que la désobéissance civile est efficace? Quels en sont pour toi les résultats concrets? Est-ce que c'est nécessaire? Qu'en penses-tu?
La désobéissance civile, elle est efficace. Elle l'a montré au cours de l'histoire, de plein de manières différentes. Elle est rarement efficace quand elle est utilisée seule. Ça veut dire que s'il y a que de la désobéissance civile non violente qui est faite dans un pays, en général, ça va pas mener à des changements sociétaux importants. Par contre, quand elle s'inscrit dans un large front de différentes initiatives qui vont des manifestations, aux pétitions, le recours juridique, etc., puis aussi des actions directes plus offensives, là, à ce moment-là, la désobéissance civile, elle prend tout son sens, et oui, effectivement, elle est nécessaire, et elle fait arriver des changements. Ben, un exemple que moi, j'aime beaucoup citer, parce que je le trouve pertinent, c'est les suffragettes. Ben, les suffragettes, voilà, elles ont mis en place toutes ces tactiques différentes qui allaient ben, de la manifestation, la désobéissance civile et l'attentat à la bombe pour arriver à avoir le droit de vote. Et donc, en fait, c'est en utilisant toutes ces tactiques-là qu'elles ont pu arriver au droit de vote qu'on arrive, qui est aujourd'hui en place.
Bien sûr.
Pour le climat, la désobéissance civile, aujourd'hui, je pourrais pas dire qu'elle a permis d'atteindre des victoires, en tout cas pas des victoires vraiment systémiques, mais par contre des plus petites victoires à des échelles plus locales. Il y en a eu plein dont on se rend pas forcément compte. D'ailleurs, il y a un collectif qui s'appelle Terre de Lutte, qui est vraiment qui est très actif sur ces questions-là et qui fait une newsletter où justement il y a en fait et on se rend compte qu'il y a plein d'endroits en France où il y a des petits projets mais qui en fait à l'échelle de la France quand il y en a 150 comme ça des entrepôts Amazon ben, ça a un vrai impact sont abandonnés parce que les personnes sur place se mobilisent pour protéger leur territoire.
Oui, et pourquoi du coup il n'y a pas de visibilité sur ces actions-là? Comment tu pourrais l'expliquer? C'est parce que c'est trop local?
Ben c'est pas qu'il y a pas de visibilité, c'est juste que c'est qu'il y a pas la pression elle est mise par les personnes localement sur les entités de décision locales et du coup ça se fait en fait au local. Il y a certaines luttes locales qui sont devenues des luttes nationales, typiquement les méga bassines avec les soulèvements de la terre et bassines non merci. Mais en fait c'est pas nécessaire pour tous les projets que ça devienne une lutte locale connu nationalement. Il peut y avoir des victoires locales qui n'ont pas
Oui.
forcément besoin d'avoir un port écho-médiatique.
Bien sûr. Et du coup, je me demandais si tu pouvais nous donner un petit exemple d'action récente que tu as pu mener, voilà, récemment.
Alors, c'est quoi la dernière action que j'ai faite? Alors, en fait, je ne vais pas parler des actions que moi j'ai faites, mais en tout cas dans les actions que le mouvement a fait récemment, ben en fait à l'échelle de la France, il y en a plein. Il y a eu des collages, des choses qui sont un peu tous les jours, en fait, toutes les semaines en France, Extinction Rebellion, il y a des collages, des déambulations, des trucs comme ça. Récemment là, qui est passé. Il y a eu alors c'est surtout oui il y a eu des campagnes sur les banques des grosses campagnes de détérioration ou en tout cas redécoration redécoration des banques voilà qui étaient très investies dans les financements du pipeline ICOP donc voilà pour visibiliser ça. À Lyon, la dernière action qui a été menée, c'était une action contre la fast fashion et c'était un nouveau mode d'action qui a plutôt bien marché. En fait, l'idée, c'était de se rendre discrètement dans les magasins avec un spray qui contient un produit qui est odorant, mais un produit naturel, donc du purin d'ortie ou des trucs comme ça. Et en fait, de mettre cette odeur un peu partout dans le magasin de manière discrète pour que quand les personnes rentrent dans le magasin, ça sente mauvais et partent. Du coup, c'était un peu l'idée de retourner les armes du capitalisme et de la fast fashion qui voilà mettre des bonnes odeurs, de la musique, des lumières très fortes dans les magasins pour pousser la consommation, bah retourner ces armes-là contre l'industrie vestimentaire. Et donc ça a plutôt bien marché. On a eu des retours assez cool là-dessus. Et c'est une action qui va essayer de d'essaimer un petit peu partout sur le territoire en France.
Oui, bien sûr. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu des revendications de XR et pour un peu qu'on puisse mieux comprendre aussi cette action et cet exemple de désobéissance civile?
Le mouvement il se structure autour de quatre revendications en France. Ça varie un petit peu en fonction des pays. Globalement, quand le mouvement a commencé en Angleterre, il y en avait trois. Puis en France, il y en a une qui a été un peu ajoutée. Dans d'autres pays, il y a d'autres revendications aussi qui ont été ajoutées. Donc ça varie légèrement. Mais en gros, les revendications qu'on retrouve à chaque fois, c'est la première, c'est dire la vérité. Donc c'est avoir une communication honnête sur le sujet de la crise climatique. La deuxième, c'est d'arrêter l'écocide, donc de mettre fin à toute destruction de l'environnement. Et la troisième, c'est de laisser les citoyens décider de comment faire la transition écologique. Donc voilà, ça se résume en une phrase, en gros dire la vérité, arrêter l'écocide et laisser les citoyens décider. Et en France, on a rajouté au moment de la création du mouvement une quatrième revendication qui était mettre fin à l'utilisation des énergies fossiles ou atteindre la neutralité carbone en 2025. C'était quelque chose comme ça. Qui était un peu une revendication ambitieuse, qui avait peu de chances d'être atteinte, mais qui permettait un petit peu en 2025, donc l'année prochaine, de faire un bilan de où est-ce qu'on en est sur cette revendication-là, peut-être de la faire évoluer, peut-être pas, peut-être de la garder comme trace, je sais pas. Ça, c'est des discussions qui sont en cours, hein, au sein du mouvement. Et donc voilà, à partir du moment où une action s'inscrit dans ces revendications, qui sont très larges, hein, globalement, et ben ça c'est une action qui a du sens au sein d'XR.
Donc ça évolue, oui, ça peut évoluer avec le temps finalement, c'est pas ancré dans le marbre.
Non, non, pas du tout. Et il y a des pays comme les Pays-Bas et l'Espagne qui ont décidé à l'échelle nationale de rajouter une revendication, donc la revendication zéro, qui était plus de justice climatique, parce qu'ils ne trouvaient pas normal que la justice climatique ne soit pas intégrée dans l'ADN d'XR, ce qui est effectivement, moi aussi, en tant que membre du mouvement, je trouve que c'est une erreur de la part du mouvement quand il s'est créé, de ne pas avoir mis au centre de ses revendications la justice climatique. Donc il y a des pays qui ont choisi de s'emparer de cette problématique-là et de rectifier le tir, entre guillemets.
Bien sûr. Et je, du coup, dans ces actions donc de désobéissance civile, donc il y en a parfois certains sont arrêtés. Donc quels pourraient être les autres risques? Est-ce que toi, tu es prêt à prendre ces risques? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Qu'en penses-tu?
Ouais, alors en fait, XR, c'est un mouvement qui est très bien pour commencer à militer. Parce que c'est vraiment fait pour mettre les gens dans les bonnes conditions pour faire de la désobéissance civile. Et effectivement, en fait, il y a des actions où les actions sont la plupart illégales. Mais voilà, quand on fait un collage, par exemple, bon, c'est illégal, mais on a peu de chances de se retrouver en procès et de devoir des milliers d'euros pour un collage. Pareil pour l'anti-pub, pareil pour... Il y a plein de petites actions comme ça. Et après, effectivement, quand on monte dans l'échelle des dommages et intérêts, par exemple, ou en tout cas de ce qui peut nous être reproché juridiquement, il y a des risques. Ce qui arrive régulièrement en action, c'est d'être contrôlé, donc d'avoir son identité contrôlée. Ça, c'est un risque que voilà, on accepte quand on est en petit groupe, parce que parfois, quand on est en plus gros groupe, il peut y avoir la décision de collectivement refuser de donner son identité pour que la police n'ait l'identité de personne, à moins d'embarquer tout le monde. Mais si on est un grand groupe, du coup, c'est logistiquement plus compliqué pour eux. Donc, il y a aussi des méthodes pour se protéger collectivement. Et après, effectivement, il y a le risque de garde à vue. Donc en France, la garde à vue, c'est 24 heures renouvelable une fois. Et après, il y a les procès. Donc il y a, je ne saurais pas dire combien de personnes sont en procès au sein d'XR actuellement. Je pense que ça doit tourner autour d'une cinquantaine de personnes, quelque chose comme ça, à l'échelle de la France. Voilà. Moi, le procès, c'est pas un risque auquel je suis encore tout à fait sûr d'être prêt. Voilà. Donc quand il y a des actions et que le rôle nécessite d'accepter le risque d'aller en procès, ben je prends pas ce rôle-là. Par contre, aller en garde à vue, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé. La première fois, c'est pas très rigolo, mais en fait, on a des dispositifs d'accueil des personnes une fois qu'elles sont relâchées et qu'elles sortent de la garde à vue. On les attend devant le commissariat avec de la nourriture, des boissons. On les ramène, on va faire la fête ensemble, on discute, il y a des espaces de discussion, etc. Donc, en fait, tout est fait pour que ça se passe bien. Et globalement, moi, j'ai eu la chance de n'avoir aucune mauvaise expérience en garde à vue. Donc c'est pas quelque chose qui me fait peur maintenant quand je vais en action. Et après pour les procès, ben il y a des personnes qui voilà qui sont en procès. Donc il y a XR prend une partie en charge une partie des frais d'avocat et des dommages et intérêts. Mais comme XR est un mouvement en France qui est financé uniquement par les dons de particuliers, ça va très très vite. En fait sur une action où il y a 25 personnes qui ont 1 500 euros d'amende, et ben en fait ça chiffre énormément pour le.
Bien sûr. Mais du coup, donc vous êtes organisé au niveau En fait, vous devez avoir peut-être un guide pour vous aider à savoir comment réagir. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que vous avez des gens à appeler aussi en cas de...
Ouais, il y a un gros dispositif. C'est une culture qui est assez ancrée, j'ai l'impression, chez XR. J'ai pas beaucoup d'expérience dans d'autres mouvements, mais en tout cas, j'ai des personnes qui viennent d'autres cultures militantes, quand elles viennent à XR, trouvent qu'il y a une vraie attention qui est portée à ce genre de choses. Donc en fait, avant chaque action, on est briefé sur les risques juridiques maximum encourus pour chaque geste qui vont être faits durant l'action. Donc on sait à quoi au maximum on peut ce qu'on risque. Il y a effectivement toujours un contact d'avocat qui est donné, donc qu'on peut contacter si jamais, pendant qu'on est en garde à vue, on sent que là, ça se passe pas bien, il y a des problèmes, etc. La police est en train de nous la faire à l'envers. On peut contacter un avocat. Et oui, il y a des personnes qui savent exactement quels sont les risques juridiques qu'on prend, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher. Il y a des avocats qui font partie d'XR, des militants qui sont aussi avocats, voilà. Donc on est plutôt bien entouré à ce sujet-là. Et en tout cas, on n'est jamais laissé seul. Ça, c'est très important. Il n'y a pas de moment où on nous dit à la fin d'une action, bon, bah là, c'est pas de chance, tu t'es fait choper par la police, bon courage, débrouille-toi. Ça n'arrivera jamais. Et on sera toujours suivi. Et les gens ne lâchent pas comme ça dans la nature des personnes qui se sont fait attraper par la police. Il y a une vraie solidarité, au sein du mouvement.
D'accord, donc oui, vous êtes très solidaire et bien organisé, du coup.
Et on est formé aussi. Il y a une Extinction Rébellion et d'autres collectifs donnent une formation à la désobéissance civile non violente. Donc c'est une formation d'environ 2 heures et demie à peu près, un peu comme ça, qui couvre un peu tout ce que ça veut dire faire de la désobéissance civile. Donc les modalités, les risques, comment réagir quand on est en garde à vue, voilà, ne rien déclarer, le droit à un avocat, le droit à un médecin, le droit à un coup de fil, ce genre de choses.
C'est
Donc non,
bien
on ne fait pas ça. C'est pas improvisé en tout cas.
Oui, d'accord. Ok. Et du coup, je voulais revenir un peu sur l'actualité. Récemment, tu as vu il y a quelques jours, il y a encore de la soupe qui a été jetée sur un tableau. Donc là, ça fait en plus le tour du monde, parce que c'est la Joconde. Parce que après cela, il y a beaucoup de critiques en général. Certains parlent d'éco-terrorisme. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire par rapport à ça?
Ben, en fait, moi, j'ai un discours un petit peu. Ben, en fait, j'ai envie de dire aux gens qui parlent d'éco-terrorisme déjà que ça n'existe pas. En plus, pour de la peinture sur un tableau, c'est faux, parce qu'en fait, ça n'a jamais aucun tableau de toutes les actions de ce type-là n'a été touché de quelque manière que ce soit. C'est des tableaux qui sont ultra protégés. C'est-à-dire, si on pouvait abîmer la Joconde comme ça serait vraiment débile. Et puis en plus, il y a plein de directeurs d'instituts et de musées qui ont dit que c'était une forme de protestation légitime, qui était extrêmement respectueuse, qui ne mettait en danger absolument à aucun moment les œuvres d'art. Donc en fait, c'est juste, pour moi, les gens qui ne sont pas d'accord avec ce mode d'action-là, c'est soit les gens qui ne se sont pas renseignés, à ce moment-là, renseignez-vous, soit les gens qui, de toute façon, n'auraient pas été d'accord avec nous. Et en plus, là, du coup, en l'occurrence, cette action-là sur la Joconde, elle a été faite par Riposte Alimentaire, qui est donc la nouvelle. La nouvelle campagne de dernière rénovation,
C'est
qui
ça.
est sur la sécurité sociale alimentaire. Donc en fait, là, on parle de personnes qui ont fait un truc qui va se nettoyer avec un coup d'éponge pour attirer l'attention sur le fait qu'en France, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours. Ben, à un moment, si c'est vraiment ça ta priorité dans la vie, de dire qu'il faut protéger les vitres de jets de soupe, très bien pour toi, mais moi, je pense que c'est vraiment stupide et que c'est pas important. Donc non. Par contre, voilà, il y a effectivement des gens qui vont venir nous reprocher ça, donc ben, voilà, on fait ce travail-là de réexplication, etc. Voilà, sur les blocages de route, par exemple, j'ai un point de vue qui est un petit peu différent. Je comprends que les gens trouvent pas ça logique de bloquer la route parce que en fait, ça empêche des gens d'aller travailler, etc. Voilà, en fait, chaque fois qu'on organise une action, il faut se poser les questions de, ben, en fait, qu'est-ce qu'on veut atteindre avec cette action? Quels sont les moyens qu'on peut mettre? Puis on fait une balance. Et en fait, ben, une action qui fait le tour du monde, qui permet d'être invité sur des plateaux télé, qui permet de faire passer un message de manière globale, et qui coûte le prix d'une entrée au Louvre, un pot de soupe et 2 personnes un petit peu motivées, ben, en fait, tu ne peux pas faire mieux en termes de rentabilité. Donc c'est juste, nous, on joue avec ce qu'on a comme. Enfin, ça, on joue avec ce qu'on a comme arme, et puis ben, on fait ce qu'on peut, quoi.
Et je pense aussi au fait que est-ce que vous êtes avec d'autres associations de désobéissance civile? Je pense par exemple à Scientific Rebellion. Après, j'ai l'impression qu'ils sont presque plus écoutés que d'autres organisations. Est-ce que parfois vous vous alliez? Est-ce qu'il y a des actions communes faites?
Oui, carrément. Bah, en fait, scientifiques en rébellion, c'est les scientifiques qui faisaient partie d'XR qui se sont dit on va créer une branche du mouvement. Donc c'est il y a clairement plein de synergies. Pareil avec les soulèvements de la Terre où il y a plein d'actions qui ont été organisées en commun. Pareil avec Attaque, avec Alternativa. Non, non, pour le coup, il y a des différences de culture, il y a des différences de mode d'action, mais globalement, la plupart du temps, on comprend tous qu'on est ensemble dans le même objectif de lutte, et donc il n'y a pas de problème pour travailler ensemble.
Pas de problème. Je vois que le temps file. Est-ce que tu voudrais nous parler de quelque chose, partager quelque chose dont nous n'avons pas parlé avant de conclure et de terminer cet épisode?
Ben moi je oui ben en fait j'ai pas vraiment parlé de mon expérience personnelle dans le militantisme, mais en fait moi ça m'a apporté vraiment plein plein de choses auxquelles je m'étais pas du tout attendu. Enfin moi je j'avais pas spécialement d'attente, mais ça vraiment ça a pris une place dans ma vie très importante, et en fait ça m'a fait rencontrer plein de gens incroyables, et ça m'a fait découvrir plein de choses différentes, et ça m'a enfin voilà, je me retrouve à être moins anxieux sur le climat, bon pas tout le temps, mais voilà, globalement. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien dans la vie en général. Ça m'a appris plein de choses. Et oui, non, en fait, moi, enfin, s'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, j'aimerais bien essayer de faire un truc, mais je sais pas trop par où commencer, etc. Enfin, en fait, moi, le conseil que j'aurais, c'est d'essayer de rencontrer des gens qui font des choses déjà. Peu importe ce que c'est, hein, je ne prêche pas la paroisse de XR en disant c'est ça qu'il faut, c'est le meilleur mouvement du monde. C'est un petit peu le cas, mais voilà. Mais vraiment, oui, rencontrer des gens, parler avec ces personnes-là, et en fait, il y a de la place pour tout le monde, quoi, dans la lutte, parce qu'en fait, la lutte climatique, c'est faire le monde de demain, c'est pas essayer de sauver la planète, c'est essayer de faire une société qui va survivre sur la planète. Et en fait, bah, pour faire cette société-là, on a besoin de tout le monde, parce que bah, tout le monde fait partie de la société. Donc il y a de la place pour tout le monde, chaque personne peut apporter quelque chose, et donc venez, voilà.
Ben en tout cas, ouais, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir répondu à l'appel, d'avoir pu partager sur ton expérience à Exerm, mais sans désobéissance civile. Je pense que ça a été très clair. Donc, je pense que les auditeurs auront une meilleure connaissance de cela et du mouvement aussi, pour décider eux-mêmes. S'ils veulent rejoindre un mouvement pour essayer de participer au changement, je pense. Mais en tout cas, merci encore à toi et merci aux auditeurs d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura informé et inspiré et on se retrouve dans un prochain épisode.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à le partager autour de toi. Cela nous soutient énormément.
Tu peux aussi nous faire un retour en nous laissant un avis.
On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
À très vite.